C'est désormais une certitude et une certitude dûment chiffrée. Notre climat régional a bel et bien changé et la réalité du réchauffement est avérée et significative. C'est ce qui ressort d'une étude parue début octobre réalisée par l'Observatoire du climat, un observatoire porté par le CERDD, le Centre de ressources du développement durable, et piloté par la région, les départements et l'État. Que nous enseignent les observations publiées? Quels sont les risques encourus et bien évidemment les réponses possibles? Tour d'horizon de ces questions avec Julien Dumont, chargé de mission au CERDD et auteur de cette étude, dont l'un des résultats les plus frappants est qu'avec 1,75 degré en plus à Lille entre 1955 et 2016, la hausse des températures est plus rapide en région qu'à l'échelle de la planète. Julien Dumont.
Effectivement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on parle d'un réchauffement global à l'échelle de la planète. Il y a quand même quelques petites zones qui se refroidissent, mais elles sont peu nombreuses. La majorité des zones subissent un réchauffement plus ou moins important. Et effectivement, dans notre région, on est juste un petit peu au-dessus de la moyenne d'élévation mondiale. On est à 0,3 degrés par décennie en moyenne, alors qu'au niveau mondial, on est à 0,22 degrés.
Autre observation, la baisse du nombre de jours de gel. On pourrait s'en réjouir, mais c'est pas drôle du tout.
Effectivement, on pourrait se réjouir en se disant, bon, mais on va pouvoir planter palmiers, cocotiers et orangers. Malheureusement, on connaît les liens forts entre le gel et puis la biodiversité, l'environnement, et même c'est ce qui caractérise un petit peu nos saisons. Finalement, c'est ce qui nous différencie d'un climat équatorial. On connaît des températures négatives, et lorsque l'eau gèle, effectivement, ne serait-ce que lorsqu'on prend en compte l'agriculture, par exemple, ça a une importance capitale sur la destruction des insectes qui sont nuisibles du point de vue de l'agriculteur. Et d'autre part, ça a une importance capitale sur tout ce qui est environnement et biodiversité au niveau des cycles de reproduction, ce qu'on appelle plus généralement la phénologie des êtres vivants, faune et flore. Ça peut être des éléments essentiellement de reproduction, mais aussi de développement, par exemple le bourgeonnement, la sortie des feuilles ou la chute des feuilles sur les arbres.
Quatrième observation dans cette étude que vous avez réalisée, Julien Dumont, l'augmentation du nombre de jours de fortes pluies, un phénomène plus sensible visiblement sur le littoral.
Oui, la station utilisée pour cette mesure, c'est Boulogne-sur-Mer. En fait, les fortes pluies, ce sont des événements météorologiques lors desquels il y a une pluviométrie sur une journée qui est supérieure à 10 mm d'eau. On s'aperçoit au final que le cumul de précipitations, donc le total d'eau qui chute à l'année, ne change pas trop, contrairement aux ragots qu'on peut entendre sur la région. Mais par contre, ces précipitations ont tendance à se concentrer donc sous le format de fortes pluies, c'est-à-dire beaucoup d'eau en une seule journée, et en plus à se concentrer l'hiver. On en a eu l'expérience cet été, on a quasiment connu une sécheresse sans précédent, en tout cas parmi les plus longues qu'on connaisse en région. Et finalement, cette eau, elle se retrouve à tomber en hiver sous le format, comme je disais, d'événements intenses, qu'on appelle intenses, comme les fortes pluies par exemple.
Quatrième observation significative de cette étude, Julien Dumont, on reste, si je puis dire, sur le littoral avec la hausse observée, chiffrée, une fois encore, du niveau de la mer.
Oui, effectivement, là, on a plusieurs stations de mesure. Alors, avec quelques subtilités que je me garderai d'évoquer, mais sur des si longues durées, les ports maritimes et les stations de mesure évoluent un petit peu. Mais globalement, on peut voir là aussi une augmentation du niveau de la mer qui est sensible. Alors bien sûr, la marée faisant ses cycles habituels avec la Lune et les conditions météorologiques, on peut avoir évidemment des variations de plus ou moins 3-5 mètres à une station de mesure donnée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur pareil, 50-60 ans, sur le long terme, ce qui nous intéresse, ce sont les variations du niveau moyen de la mer. Et sur ça, on observe plus 9,5 cm à peu près à la station de Dunkerque. Donc ce qui est plutôt, en tout cas, préoccupant pour les habitants du littoral, pour la simple et bonne raison qu'un port a été construit à une hauteur donnée, avec une moyenne donnée, et en particulier les ouvrages de protection ou d'évacuation de l'eau à la mer sont calibrés sur ces valeurs de référence. Or, ce ne sont pas des valeurs de référence puisqu'elles évoluent en raison du changement climatique. Donc ça peut poser des problèmes dans le cadre de la gestion et de l'aménagement du territoire.
Après ces constats, une fois encore, chiffrés, avérés, quels sont les risques qu'on encourt? Ils sont globalement au nombre de 4, les deux premiers, du fait de la répartition des populations et du relief de notre région. On ne peut pas dire que ce soit très très accidenté de par chez nous. Ce qu'on risque au premier chef, c'est les inondations et la submersion marine.
Effectivement, le premier risque naturel de la région, sans parler de changement climatique, c'est celui des inondations. Comme vous l'avez dit, plat pays, avec quelques cours d'eau tout de même, mais surtout un territoire qui est sensibilisé par l'érosion des sols et notamment par les pratiques agricoles. Et puis, comme on le disait, avec une concentration des fortes pluies, ça favorise encore les problèmes d'évacuation de l'eau et de drainage. Donc c'est vrai que là-dessus, on le disait, les fortes pluies, assez naturellement, viennent aggraver ce risque naturel en venant rajouter des épisodes donc de fortes pluies intenses, etc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on aborde une partie difficile du changement climatique. C'est facile de mesurer la température, c'est même plutôt très précis. Par contre, en ce qui concerne les inondations, c'est très difficile de dire 1,75 degré en plus à Lille égale X litres d'eau en plus dans ma cave. Ça, c'est pas possible. On sait qu'il y a un lien qualitatif, les experts du milieu sont au courant. Par contre, quantitativement, on ne sait pas le mesurer.
Impact également sur la qualité de l'air, la pollution atmosphérique va galopante.
Alors là, de la même façon que pour les inondations, on est sur un risque qui est difficile à quantifier. Ce que les experts de l'air et de l'atmosphère savent, c'est que les pics d'ozone se rencontrent particulièrement lors des épisodes de canicule. Donc on sait que ces deux éléments sont liés, canicule ou jour de jour chaud et formation d'ozone. L'idée, c'est que la mesure de l'ozone, c'est une donnée qui est plutôt récente, en tout cas à l'échelle du climat, c'est récent, c'est tout au plus une dizaine d'années de données précises et de relevés. Par contre, sur les jours chauds, on sait que la tendance est elle aussi à l'élévation, plus 5 jours depuis 1972 de jours chauds, donc autant d'opportunités de formation, de pollution de l'air supplémentaire. Donc on sait que le changement climatique consistant en réchauffement ici, on aura des épisodes de pollution qui seront plus fréquents et plus intenses, mais pour l'instant, les statistiques ne le montrent pas. Par contre, les experts affirment que ce sont les bonnes conditions pour que les polluants se forment. Donc effectivement, risque augmenté, je dirais, pour la santé, en particulier les voies respiratoires.
Risque pour les humains, mais pas seulement, risque pour la faune et la flore, risque globalement pour la biodiversité.
Effectivement, on le disait en introduction, la partie qui nous intéresse souvent assez directement en termes de biodiversité, c'est la partie agricole, parce qu'on se nourrit, on se chauffe et même on peut rouler avec. Mais effectivement, la biodiversité, c'est aussi une grande quantité d'espèces qui ont leur propre mode de développement et de reproduction. Et ce qu'on a pu observer, par exemple, sur un oiseau assez emblématique, qui est presque un mauvais exemple pour le coup, la cigogne. Effectivement, avant les années 90, les cigognes, on en rencontre assez peu dans le sud de la France. C'est un oiseau qui d'habitude va chercher des jours plus cléments en hiver du côté du Sahara. Donc elle va chercher des températures plus clémentes. Et depuis 90, on observe que ces oiseaux hivernent, c'est-à-dire séjournent l'hiver en Picardie, et ce de façon de plus en plus régulière, voire jusqu'à ce qu'on retrouve des individus sur l'ensemble du territoire Picard depuis 5 ou 6 ans. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un indicateur assez important. Alors, je disais, c'est presque un mauvais exemple parce que la cigogne, elle est capable de s'adapter. En plus, en vrai, c'est un oiseau assez iconique, mais elle détruit pas mal d'amphibiens, elle se nourrit de beaucoup d'autres animaux différents, c'est un prédateur. Mais il y a d'autres espèces qui purement et simplement disparaissent, pour lesquelles on n'a pas de relevé aussi long que pour la cigogne, et pour lesquelles c'est évidemment beaucoup plus problématique. La cigogne s'adapte, mais d'autres espèces disparaissent tout simplement.
Qui dit risque, Julien Dumont dit prévention des risques et tentative de trouver des solutions. Les solutions, elles passent notamment par la réduction des gaz à effet de serre. Ils sont ces gaz le moteur du changement climatique et finalement, côté gaz à effet de serre, la région, elle n'est pas spécialement bonne élève.
Alors, c'est vrai que c'est toujours une question difficile pour deux raisons. La région Hauts-de-France, elle est historiquement et elle est toujours industrielle. Donc, on peut pas vraiment faire de production industrielle, en tout cas aujourd'hui, de façon, sans émettre aucune trace de CO2, c'est impossible. Et donc, on est une région très industrielle. Donc assez fatalement, on émet tout de même un certain nombre de gaz à effet de serre pour cette raison. La deuxième, c'est aussi que la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, c'est un sujet nouveau. Compter la monnaie, ça existe presque depuis la nuit des temps, en tout cas c'est venu juste après le troc, mais les émissions de gaz à effet de serre et sa comptabilisation, c'est beaucoup plus récent. La COP 22 ans d'existence, illustre un petit peu le niveau de maturité qu'on a sur ce sujet, c'est-à-dire à peu près 20, 30, 40 ans de retour d'expérience là-dessus. Et donc, à ce sujet, on s'aperçoit que les émissions de gaz à effet de serre de la région, donc c'est 68 millions de tonnes, ça ne nous aide pas beaucoup, mais en tout cas c'est 15% du bilan national. national. Là, par contre, pour 9% de la population, on comprend un petit peu la mesure de la chose. On sait qu'il y a eu un pic d'émissions dans les années 2000-2002 et que maintenant, on est plutôt à la baisse. Malgré tout, on reste supérieur aux émissions de 1990, qui sont les années de référence en ce qui concerne les scénarios de limitation des émissions de gaz à effet de serre humaine pour rester en dessous de la barre des 2 degrés, seuil fatidique au-delà duquel on ne sait pas trop ce qui peut se passer en termes de fortes pluies, de climat ou de cigogne.
Lutte, Julien Dumont, contre les émissions de gaz à effet de serre, mais quelles sont les autres ripostes, quelles sont les autres réponses apportées par le politique, apportées par la région à ces risques qu'on a développés?
Effectivement, difficile de transformer le patrimoine géologique naturel et tous les noms scientifiques qui s'y rapportent pour caractériser la région en tant qu'environnement. Par contre, les activités humaines, on l'a dit, responsables d'émissions de gaz à effet de serre, elles peuvent être modifiées afin de limiter notre impact sur le climat. Alors, il y a plusieurs façons de regarder les choses. La première, c'est de se dire quels sont les secteurs d'activité émetteurs, donc on appelle les secteurs d'activité l'industrie, on en a parlé, mais aussi l'individu, c'est-à-dire le résidentiel, les transports. Ça, ce sont des secteurs qui sont en constante augmentation. Et c'est sur ces sujets où on peut agir. Alors les réponses, elles peuvent être de deux natures différentes en regardant dans chacun de ces secteurs, sur ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire réduire purement et simplement ces émissions de gaz à effet de serre en quantité. Et puis après, l'adaptation, on sait que certains changements sont déjà en cours, on les mesure d'ailleurs déjà. Comment on anticipe et comment on modifie nos habitudes, par exemple en construction de digues, pour prendre en compte une élévation du niveau de la mer? Comment on fait pour construire des nouveaux logements qui consomment moins d'énergie et émettent moins de gaz à effet de serre lors de construction? Ça, je dirais que ce sont les grands principes. Après, au-delà de ça, je dirais que collectivement, on peut parler de grands plans régionaux. Je ne vais pas tous les citer, c'est souvent des acronymes, mais voilà, le schéma régional sur l'aménagement, le développement durable et l'égalité des territoires, notamment, mais aussi la troisième révolution industrielle, sont des grands plans ciblés qui prennent en compte transversalement tous les aspects dont on vient de parler. Gaz à effet de serre, énergie, etc. Et donc, certains leviers très simples sont connus. Le développement des énergies renouvelables en fait partie. Ce sont des énergies qui sont faiblement carbonées, voire pas carbonées du tout, et qui ont l'avantage, d'où leur nom, d'être renouvelables, c'est-à-dire disponibles de façon continue, en tout cas à l'échelle de l'humanité. D'autres solutions sont aussi au regard de la législation, qu'on voit régulièrement sur le lien avec les taux d'émission de polluants pour les véhicules qui sont régulièrement rabaissés, donc le levier législatif, bien sûr, sur la norme, existe toujours. Ça, ce sont, je dirais, les grands types de solutions collectives. Ensuite, au niveau individuel, on peut tous agir également face à ça. Isoler sa maison, c'est un premier geste qui permet simplement de, certes, dépenser un peu d'argent, mais on pourra en économiser beaucoup après, et aussi faire un geste en faveur du climat. Ce qui est intéressant, c'est que cette action, voilà, agir pour le climat et seulement pour ça isoler sa maison, c'est difficile. Par contre, avoir des économies d'énergie, plus de confort et être plus résilient face à l'augmentation du prix de l'énergie, ça c'est intéressant pour l'individu. C'est pareil pour le manger local. Finalement, il y a un lien direct avec son terroir, c'est plutôt l'artisanat et le terroir, ça redevient à la mode, mais surtout en mangeant local, on soutient l'emploi local également. Et puis je dirais que oublier sa voiture de temps en temps, c'est pareil, ça peut aider pas mal, surtout pour la pollution atmosphérique, et en plus c'est bon pour la santé finalement, et c'est bon pour le porte-monnaie aussi, parce qu'une voiture ça coûte très cher, et le carburant d'autant plus. Donc voilà, je dirais que finalement l'enjeu aujourd'hui n'est non pas de parler en quantité de gaz à effet de serre émis, mais d'être capable d'aller toucher aussi bien collectivement que les individus dans les secteurs qu'on a évoqués, c'est-à-dire l'industrie, comment on fait pour réduire mais aussi pour s'adapter dans l'industrie, comment on fait dans les transports pour réduire ses émissions mais aussi s'adapter, etc., etc. Résidentiel, les bureaux, le tertiaire, les activités tertiaires, l'agriculture, les déchets, etc., etc. Et aujourd'hui, on en est à cette étape, décliner, traduire des quantités de CO2 en euros, en emplois, en quantité d'énergie, en renouvelables, en isolation, etc., etc.
Et pour conclure sur une image parlante, selon le scénario le plus optimiste en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en 2080, le climat de Lille sera proche de la douceur angevine, chère à Dubélé, et selon le plus pessimiste, le climat lillois ressemblera à celui de Carcassonne. Le changement climatique en région, un magazine proposé par Bruno Reguet de Radio PFM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.